Linda Sassi nous présente le journal local. Bonjour Linda.
Bonjour Rachel et bonjour à tous. Des parents se retrouvent contraints de rester à la maison pour garder leurs enfants. C'est l'une des conséquences de la contamination de plusieurs enfants de Saint-Pierre à la Covid-19. Le dispositif d'activité partielle a été réactivé par la CPS pour les accompagner. Plus de précisions dans un instant. Alors, comment les enfants vivent le retour des masques à l'école? Ils le portent depuis ce matin. Eh bien, nous sommes allés les voir à la sortie d'une des écoles de Saint-Pierre tout à l'heure. Deux spécialistes du montage d'opérations de défiscalisation industrielle sont actuellement sur le territoire. Frédéric Denis, responsable d'agence Martinique, et Vincent Declerc, directeur réseau des agences Outre-mer, nous en diront plus sur leur activité. Ils sont nos invités ce midi. Et puis on termine avec le sport. Les records masculins et féminins de la grimpette de lance à pied remontent à 1999 et 2017. Samedi, les adeptes de course à pied pourront peut-être tenter de les battre. La Foulée des Îles organise sa dernière course de l'année.
La Caisse de prévoyance sociale a réactivé le dispositif d'activité partielle à destination des parents.
Et oui, 22 cas actifs de Covid-19 sur le territoire. C'est le résultat des investigations des autorités de santé menées sur la soixantaine de personnes testées hier. 4 nouveaux cas, donc sans complications. Vous l'avez sûrement entendu, une école a été fermée, ce qui oblige les parents à s'organiser. La CPS propose donc à nouveau cet accompagnement spécifique qui se fait différemment en fonction des situations, si l'enfant est dans une classe qui a été fermée, enfant positif ou enfant cas contact. Le statut du salarié est également à prendre en considération. Martine Briand a rencontré Mathieu Orsini, chargé de communication à la CPS.
Ça dépend effectivement du statut du parent, savoir s'il est salarié de droit privé, s'il est fonctionnaire ou s'il est travailleur indépendant. Ensuite, le premier réflexe dans ces cas de figure, c'est la mise en place du télétravail. Donc il faut se rapprocher pour les salariés et les fonctionnaires, il faut se rapprocher de leur employeur pour savoir si la possibilité de télétravailler existe.
On va parler des gens qui sont indépendants ou des gens qui sont salariés de droit privé. À quoi ils ont le droit? Comment ça se passe pour eux?
Alors pour les travailleurs indépendants, encore une fois, la solution privilégiée, c'est le télétravail. Si effectivement le télétravail n'est pas possible, il faut se rapprocher du service médical pour essayer d'avoir de la CPS, pour avoir un arrêt de travail dérogatoire indemnisé. Et donc cet arrêt de travail dérogatoire couvre les 3 cas de figure que l'on peut rencontrer actuellement, à savoir la garde d'enfants pour fermeture d'un établissement scolaire, le parent qui est parent d'un enfant cas positif à la Covid ou qui est parent d'un enfant cas contact. Donc évidemment, ces cas de figure, le parent va être destinataire de documents qu'il faudra effectivement présenter, donc à savoir une attestation de l'établissement scolaire qui indique que la classe est fermée, ou un document de l'ATS qui stipule, on va dire, le statut de l'enfant, à savoir s'il est positif ou cas contact.
Mathieu Orsini au micro de Martine Briand. Il y a donc les enfants forcés de rester à la maison et ceux qui sont allés à l'école masqués, puisque les élèves dès le CP ont obligation de porter le masque depuis ce matin. Réaction des concernés, élèves de Sainte-Croisine, Alice Anodou leur a demandé comment ils avaient vécu cette matinée masquée.
Oh bah moi je déteste ça le masque, parce que ça fait de la buée, ça gêne, je le mets à l'envers des fois. Puis moi, c'est pas pratique parce que quand je prends le bus, je l'oublie, je dois aller le retourner chercher à la maison et revenir au bus. Une fois, j'ai loupé le bus à cause du masque.
C'est gênant, c'est dur à respirer avec.
Surtout avec les lunettes, on met plein de buée sur les lunettes et on peut pas lire, on peut pas écrire.
Déjà, ça nous protège du Covid et aussi ça nous dérange parce qu'on peut pas très bien respirer.
Ça me donne la colère, c'est très énervant, ça gratte le nez, ça donne de la buée sur les lunettes. Ça va, moi je l'ai déjà porté avant qu'ils arrivent ici, les CE1.
Pourquoi c'est important de se protéger?
Parce que comme ça, nous, on nous protège aussi, mais on protège les autres.
Voilà, on rappelle qu'on ne met pas le masque à l'envers quand même. Alors les autorités de santé ont affiné le dispositif de vaccination pour ce qui concerne la troisième dose. Le fameux rappel, les 50 ans et plus ayant reçu la deuxième injection il y a au moins 6 mois pourront en bénéficier samedi et dimanche de 8h à 20h à Saint-Pierre en face de la SIA à l'ancien centre aéré. Et dès demain à Miquelon au centre médical de 10h à midi ainsi que les mercredis 1er et 8 décembre sur rendez-vous au 41 68 45. Et avec ce contexte, plusieurs événements sont annulés. Certaines associations ont suspendu leur activité, à l'image du club de taekwondo Hong Song-ne, du karaté club ou encore du club de patinage sur glace. Je vous invite à vous rapprocher des services concernés pour plus d'informations. D'autres annulations, mais cette fois en raison des conditions météo, la permanence de médiation familiale prévue à Miquelon aujourd'hui est reportée à la prochaine mission. La déchetterie et la décharge sont également fermées cet après-midi. Nous serons d'ailleurs ce soir en vigilance jaune pour vent violent à partir de 20h. Et puis le sud-ouest de Terre-Neuve se prépare d'ailleurs à une tempête historique. Des précipitations de l'ordre de 200 à 350 mm sont attendues chez nos voisins.
Il est 12h36. Nous allons à présent parler de défiscalisation industrielle.
Et pour nous en parler, nous recevons deux spécialistes de la question. Frédéric Denis, responsable de l'agence Martinique, et Vincent Declerc, directeur réseau des agences Outre-mer. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Alors, vous êtes de passage pour une semaine afin de rencontrer les entreprises pour leur proposer de réaliser pour elles les opérations de financement grâce à la défiscalisation. Dans les grandes lignes, comment ça fonctionne ?
Alors, Interavest est une société de financement agréé, donc qui effectivement fait de la défiscalisation depuis 30 ans. Nous fêtons nos 30 ans cette année. Notre corps de métier reste la défiscalisation industrielle. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de venir à la rencontre des entreprises, mais aussi des institutionnels, et de proposer nos services. Et face à des clients, des exploitants qui ont des projets, de définir si le projet est éligible ou pas, parce qu'il y a des critères à respecter. Et si le projet est éligible, de les aider, les assister pour faire le montage, ce qui leur permet quand même d'avoir une aide de 30% sur les investissements neufs, donc qui n'est pas négligeable.
Alors ça concerne quel type d'investissement par exemple ?
Alors majoritairement, les secteurs éligibles sont les secteurs du bâtiment et travaux publics, tourisme, les artisans, les activités industrielles, mais aussi l'agriculture, la pêche évidemment, Saint-Pierre et Miquelon, sont les principaux secteurs qu'on peut rencontrer.
Est-ce qu'il y a un minimum d'investissement pour bénéficier de cette opération financière ?
Alors, aucunement. Et aujourd'hui, on se positionne vraiment sur une proximité et d'aider à la fois un artisan qui pourrait avoir des besoins d'achat de machines de montant limité, qui peut être de 15-20 000 euros. On ne fixe pas de minimum. Tout comme on peut être amené à accompagner des projets beaucoup plus conséquents. Il n'y a pas de limite et on veut vraiment se positionner sur toute la clientèle potentielle qui serait éligible.
Uniquement sur des investissements physiques ?
Oui, enfin. Ce qu'il faut comprendre aussi dans l'investissement, c'est que, déjà, il faut qu'il ait la possibilité d'être immobilisé un minimum pendant 5 ans. Et on ne défiscalisera que du matériel neuf. C'est très important, sinon la défiscalisation ne peut pas avoir lieu.
Vous disiez qu'il fallait être éligible pour pouvoir en bénéficier. Quels sont les critères de cette éligibilité ?
Alors, les critères d'éligibilité. Déjà, c'est le code APE qui va le définir sur le CABIS de la société. Donc, ces codes sont régis par les codes NAF et ensuite par l'article 199B des impôts.
Un peu compliqué, ça c'est votre maîtrise à vous. Pour bien comprendre, je suis une entreprise ou un artisan, je souhaite recevoir une subvention pour un investissement que j'aurais réalisé ou que je vais réaliser. Comment je procède ?
Alors, après avoir établi le contact, nous allons déjà regarder si votre société est éligible au niveau de l'activité. Si c'est le cas, on continue d'avancer. Si c'est pas le cas, malheureusement, la loi nous interdit d'aller plus loin et on ne pourra pas faire de dossier. Ensuite, il y a tout un set administratif à préparer qui, en règle générale, les documents que la société utilise assez fréquemment, c'est-à-dire CABIS, fichier INSEE, attestation sociale et fiscale. Notre futur locataire devra être à jour de la totalité de ses cotisations. On va naturellement lui demander quelques éléments financiers qui sont le bilan, ainsi que le dépôt de ces bilans auprès des administrations concernées, et ainsi que les trois derniers relevés de compte de sa société.
Ça veut dire qu'on vérifie d'une part donc la bonne santé de l'entreprise, et d'autre part si tout est bien cadré, bien ficelé, que tout est sain.
Tout à fait.
Si tout est correct pour mon entreprise, et que je vous fais le dossier et qu'il est accepté, dans quel délai je peux recevoir cette subvention, par exemple ?
Alors, chez nous, la partie la plus compliquée, je dirais, c'est la partie administratif, parce qu'on demande quand même, on le fait pas de gaieté de cœur, hein, c'est l'administration qui nous impose de demander un certain nombre de documents auprès de nos futurs locataires, donc les artisans, exploitants ou industriels. Une fois que la totalité de ces documents sont prêts, nous on commence à faire le dossier. Au préalable, nous avons déjà proposé une proposition de financement que le client a acceptée. À partir du moment où il a signé cette proposition de financement, il nous accorde la possibilité de s'occuper de son dossier. En moyenne, il nous faut entre 15 et 20 minutes pour créer un dossier s'il est complet. Donc, ce qui veut dire qu'avec le décalage horaire, on va prendre un peu de délai quand même. On va dire en 3 heures, il a le dossier.
Donc c'est assez rapide. Pour bien comprendre cet argent, là, vous parlez d'une subvention, il vient d'où ce montage financier? Comment est-ce qu'il se goupille?
Alors c'est vrai que c'est, on peut l'assimiler à la subvention, mais c'est vraiment une aide fiscale. Alors on a à la base des investisseurs métropolitains ou des DOM qui vont défiscaliser, donc bénéficier d'un crédit d'impôt. Et avec cet apport des investisseurs, les fonds vont être réinjectés auprès de l'exploitant.
C'est-à-dire que c'est finalement lui qui décide, voilà, cette entreprise-là, je vais, moi, l'aider en défiscalisant en même temps. Donc, alors, c'est intéressant pour moi. Donc,
l'investisseur ne va pas décider, mais en fait, c'est une question de confiance. Donc, on est, nous, en intermédiaire entre des investisseurs qui vont bénéficier donc d'une réduction d'impôt, d'un crédit d'impôt, et des exploitants que l'on va aider à faire l'investissement. Après, il y a une relation de confiance. C'est vrai que les investisseurs, depuis 30 ans, nous font confiance. On a développé aussi des clients avec qui on a des partenariats historiques. Et on est vraiment l'intermédiaire entre ces deux projets, avec un mot important pour nous, c'est la sécurité. On souhaite vraiment que les opérations soient sécurisées pour l'investisseur, mais aussi pour l'exploitant, pour être serein, parce qu'on est quand même lié sur 5 années derrière.
Alors justement, vous parlez de 5 années, vous parlez de sécuriser. Est-ce que vous parlez aussi de pérenniser, par exemple, pour Saint-Pierre-Miquelon, s'il y a des opérations qui se montent?
Oui, je pense que c'est notre premier objectif sur cette venue, et Frédéric sera amené à revenir régulièrement. Le premier constat qui est pour moi très encourageant, c'est que nous avons vu beaucoup de clients intéressés, qui avaient des projets. Je suis même pas certain qu'on arrive cette semaine à avoir tous les clients potentiels. Donc oui, on veut vraiment s'inscrire dans la pérennité, dans la durée. Et il nous arrive d'accompagner des clients sur plusieurs années. Un client qui démarre, qui fait une création de société, et on le suit encore 5 ans, 10 ans après.
On peut encore donc vous solliciter.
Tout à fait.
Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer donc votre visite, votre séjour et vos activités sur le territoire.
Merci à vous.
Du sport à présent, la dernière épreuve de l'année pour la foulée des îles, ce sera samedi à Saint-Pierre.
Oui, puisque la traditionnelle grimpette de Lance à Pierre, dont le départ sera donné devant la caserne en Renaissance, marcheurs et coureurs sont attendus sur place dès 13h30 pour participer à cette dernière course. Les précisions d'Annick Lévesque, la présidente de l'association. Elle est au micro de Marie-Paul Vidal.
La grimpette de Lance à Pierre, c'est un parcours assez montant, on va dire, donc de 6 km 300 avec une belle descente pour finir. Donc on a 2 départs cette année pour la grimpette, un à 13h30 pour les marcheurs, car les marcheurs sont acceptés sur ce parcours, vu que c'est un 6 km 300, voilà, ça peut le faire. Et donc 14h pour les coureurs. La caserne Renaissance. Il faut quand même avoir pratiqué un petit peu. C'est sûr qu'il faut un entraînement, hein, et c'est assez montant, comme je disais tout à l'heure. Et à peu près, je pense que c'était dans les 160 de dénivelé positif. Tant que bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est déjà ça. Le record masculin, il date de 1999, et c'est Claudio Arthur, notre vedette locale, qui a parcouru donc les 6 km 300 en 21 minutes et 18 secondes. En ce qui concerne les femmes, le record est plus récent, il date de 2017, et c'est Anne-Claire d'Olivet qui avait franchi la ligne d'arrivée en 26 minutes et 11 secondes.
Voilà, 2 beaux records que, bien évidemment, la Foulée des Îles espère voir battus cette année, peut-être, par les participants. Je vous rappelle que ce sera donc samedi 27 à 13h30 pour les marcheurs, à 14h pour les coureurs, si le temps le permet. Évidemment, c'est ici que se referme ce journal.